Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de découverte et de rire pour vous, de stress et de larmes pour eux. Le concept pourra paraître cruel aux âmes sensibles et il est évident qu'il pourra inquiéter notre invité du jour. Mais dans un monde ubérisé où l'on note les chauffeurs de taxi et les livreurs, il était temps qu'on puisse enfin noter également les journalistes. Chaque après-midi, les meilleurs éléments d'Europe 1 s'affrontent pour ce titre suprême qui a remplacé dans leur rêve le prix Pulitzer, le titre de chroniqueur du jour. Et, comme Arnaud Lagardère m'a donné un budget limité, sa précieuse couronne, zéro carat. Fini l'ambiance de franche camaraderie qui régnait dans la rédaction jadis. Le poison de la compétition a fait son œuvre dans les couloirs d'Europe 1. Désormais, c'est chacun pour soi, la pression est énorme. Bref, on se croirait à TF1. Bonjour Anne-Claire Coudray.
Bonjour.
Vous démentez d'emblée, j'ai l'impression.
Écoutez, tout va bien. Non, franchement, c'est une chaîne où on s'aime beaucoup, on ne s'engueule jamais.
Ah voilà.
Où il n'y a que des récompenses et des jours heureux.
Excellente actrice. Anne-Claire, vous êtes la présentatrice du JT de TF1 le week-end. Et quand on regarde vos audiences, on se dit que les clichés selon lesquels aujourd'hui les gens regardent moins le JT ne sont pas tout à fait vérifiés. Hein. 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne, ça reste énorme. Eva, vous me dites. Alors, je me tourne vers Eva Rock qui est
mais
avec
c'est
nous.
C'est énorme. Avec
vous me dites tout le temps que le JT, c'est fini.
Non. Non. Je dis qu'il y a deux choses en télé qui perdurent et qui vont perdurer encore longtemps. Ce sont les JT et les événements sportifs qu'on suit encore en direct. C'est les seules raisons de regarder encore le flux en télé.
Voilà, on va parler de ce succès, de votre parcours analyse. Aussi, Anne-Claire Coudray, car il peut inspirer des jeunes qui nous écoutent. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter une femme, justement, qui est également journaliste. Mais contrairement à vous, elle n'a pas financé ses études en bossant dans une boulangerie ou un club de tennis. J'ai lu ça dans votre bio. Non, hein, Eva, vous n'avez pas fait de petit boulot comme ça à Nice.
Mais des films érotiques, oui.
Oui. J'attendais. Je ne critique pas.
Chacun
son chemin.
Zut.
Vous auriez dû y penser. Ah oui. Je vous présente Eva Rock, inoubliable dans Soca Chaude sur Grêle et Brûlant. Eva, je vous présente également surtout nos deux premiers compétiteurs du jour. À ma gauche, j'ai longuement hésité à la recruter. En effet, je me disais, pour parler de la musique, on a déjà Eva, qui est extrêmement compétente, extrêmement mélomane, puisqu'elle a même l'oreille absolue, enfin c'est ce qu'elle nous faisait croire, jusqu'au jour où elle s'est exclamée
« Tu pourras me sortir Mambo 5 ?» Mambo number 5, c'est laquelle ? C'est pas Chihuahua ? Et ça fait comment Mambo number 5 ?
Et oui, là je me suis dit, la mytho du 06 nous a bien enflé avec son histoire d'oreille absolue. Vite, il faut que je trouve quelqu'un qui s'y connaît vraiment en musique. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Mathieu Noël.
Pas trop intimidé de me rencontrer en vrai ?
J'attends le bizutage en réalité.
Vous avez raison d'attendre. Aujourd'hui vous faites votre entrée dans la compétition. Avec quel sujet vous allez nous scotcher d'emblée ?
Eh ben on va parler de toutes les embrouilles qu'il y a pu y avoir entre groupes de rock surtout. C'est surtout le rock.
Ah surtout le rock, ouais. Mais pas seulement les Hallyday. Hein.
Non.
Ça sera plus
non.
Rock encore. Oh je sens une pointe de mépris.
Non pas du tout.
Je vais vous dire,
non.
J'aime ça. À ce côté. Anne-Claire, un garçon en plein doute. Son statut de chef du service économie d'Europe 1 devrait normalement lui permettre de relativiser l'importance des points que je distribue ici dans le seul but de nous amuser. Mais compétiteur dans l'âme, Emmanuel Dutheil ne supporte pas de perdre, comme il le confiait vendredi à sa collègue Ève Roger.
J'en ai marre de perdre.
Franchement, mais qu'est-ce que je peux faire pour gagner ? Là, j'ai fait le cul au travail, j'y arrive jamais.
Il faut pas se traverser sa nature.
Je pensais que Mathieu, il allait voter pour moi.
J'en appelle donc à Anne-Claire.
Vous les espionnez, en fait,
à votre indulgence. Ah bah évidemment, bah là, tout ce que vous dites en off pendant la pub, ça sera enregistré et retenu contre vous. Mon cher Emmanuel, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai décidé donc d'un sujet chiant, parce que je suis chiant, mais concernant voilà. Pourquoi le plein d'essence va nous coûter beaucoup plus cher dans les jours à venir.
Voilà pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
L'équipe est sauvage.
Vous avez regardé le journal ce week-end.
Anne-Claire Coudray, vous êtes donc notre invitée aujourd'hui. Vous êtes aux commandes du JT de TF1 le week-end. Et les performances sont au rendez-vous, on le disait, 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne. Il fut une époque où présenter le JT de TF1, c'était vraiment le graal absolu, l'apogée d'une carrière journalistique. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui pour vous ? Est-ce que vous vous dites, là je suis arrivée, on peut pas faire mieux ?
Alors j'espère qu'on peut faire mieux parce que je suis pas sûre de rester à ce poste pendant les 25 années qu'il me reste à travailler puisque je suis très jeune.
Vous êtes excessivement jeune.
Mais encore faut-il aimer ça, aimer le direct, aimer le stress que ça peut provoquer, aimer le fait d'avoir une image aussi à travailler et à installer. Parce que ça c'était pas du tout dans mon idée quand j'étais à l'école de journalisme. Moi ouais. Je fais partie d'une génération où on ne se montrait pas à la télévision, où on ne faisait que très peu de direct. Les chaînes info étaient à leur balbutiement, donc c'est pas forcément la motivation première quand on devient journaliste de télé, bizarrement.
Mais alors comment vous vivez cette starisation ?
Alors, starisation, elle est toute relative parce que on provoque pas les passions non plus. Je peux encore faire mes courses, je peux prendre le métro et il y a des petits sourires, les gens me reconnaissent. Au pire, on lance un débat politique et voilà, ça peut être parfois un petit peu difficile, mais ça dépasse pas ça. Et en fait, moi, je suis plutôt contente qu'on me reconnaisse. Ça veut dire que les gens nous regardent et qu'ils ont envie d'y revenir et que je leur transmets quelque chose qui les intéresse. Donc non, c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est la nature même d'un présentateur de journal. C'est qu'on le reconnaisse parce qu'il a beaucoup d'audience.
Eva Roque.
Vous parliez de stress. Est-ce que vous avez encore un peu le trac quand vous présentez le 20h ou le 13h ?
Quand le journal n'est pas totalement ficelé, à partir du moment où on est en direct, tout peut se passer. Et il y a parfois des jours où le générique part et où on n'a pas le premier sujet et où je ne sais pas ce que je vais dire à la fin des titres. Et là, il y a sans doute une petite pointe d'appréhension. Mais non, le stress des départs, je m'en suis totalement débarrassée. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait une douleur quotidienne.
Vous dites que ce que vous redoutez le plus à l'antenne, ce sont les fautes de français, les pannes de prompteur, les erreurs de carte. Et c'est vrai que pour atteindre cette fluidité que vous avez, c'est beaucoup de travail. Prenons au hasard Eva Roque. Eva Roque présente 2,5 sur 7.
Alain et Marie-Joël, Alexandria Ocasio-Cortex.
Cortex ?
Cortex. Il y a un X à la fin.
Vous me vérifiez ça ?
C'était avec un Z, c'est vrai.
Et oui, elle n'est pas prête de présenter le JT de TF1. Oui, c'est un montage, mais quand même, il y a eu beaucoup de savon comme l'année dernière.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit exercice
non,
avec les vôtres ?
Parce que les miens, je les ai fait effacer. J'ai demandé à la production, effectivement, de les effacer.
Mais vous savez que c'est très psychologique comme métier. Donc quand vous commencez à dérailler,
vous n'arrêtez pas.
Mais c'est ça.
Et ça vous est déjà arrivé, des petits moments de solitude ?
Des mauvaises liaisons, des fautes de français. On se dit, est-ce que je le rattrape ou est-ce que je passe à autre chose ? Parce que ça va très vite, tout va très vite. Après, on apprend que les auditeurs ou les téléspectateurs nous le pardonnent sans problème.
Elle présente chaque week-end le JT de TF1. Anne-Claire Coudray vient fêter ses bonnes audiences sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue. Et quand je pense qu'avant, certains collègues d'Europe 1 s'appréciaient jusqu'à partir ensemble en vacances.
Bip, bip.
Aujourd'hui, cette belle osmose a volé en éclats et j'en suis le seul responsable puisqu'à ma demande, désormais, chaque après-midi, les journalistes se mesurent les uns aux autres dans une fratricide compétition qu'on aurait pu baptiser... Amour, quasi-gloire et beauté intérieure. Qui sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet vous aura le plus intéressé ? À suivre, suite aux attaques en Arabie Saoudite, voilà les cours du pétrole qui s'envolent. Quelles conséquences pour vous à la pompe dans les jours qui viennent ? Faut-il commencer à faire des stocks ? Jusqu'à quel prix le litre peut-il monter ? Toutes les réponses à toutes ces questions avec Emmanuel Dutheil. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
La rigueur éditoriale du JT de TF1, l'excitation compétitive de Koh-Lanta. Vous écoutez l'équipe est sauvage. Chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 se tirent la bourre comme jamais au service de votre culture G. Au meilleur reviendra la couronne de chroniqueur du jour. Quant au perdant, il ruminera la phrase célèbre de Denis Brognard.
Prenez votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
Et justement, c'est un journaliste dont la carrière ne tient plus qu'à un fil qui s'avance à présent vers le micro. Fébrile comme David Trezeguet avant son tir au but en finale du Mondial 2006.
Oh, c'est là-bas ! C'est pas vrai, c'est là-bas !
Allez Emmanuel Dutheil, dites-vous qu'aujourd'hui vous avez un sujet gagnant qui va intéresser tout le monde, le prix de l'essence.
Oui, alors pourquoi le prix de l'essence va augmenter ? Eh bien tout simplement parce que le prix du baril de pétrole s'est littéralement envolé hier. Écoutez ces chiffres, 15% en moyenne. Alors dit comme ça, on pourrait se dire oui, pourquoi pas. C'est la plus forte hausse enregistrée par exemple pour le baril de pétrole qui est coté à New York depuis 2008. On regarde aussi ce qui s'appelle le Brent, et là c'est le pétrole de la mer du Nord. Eh bien là c'est tout simple, il n'y a jamais eu une telle augmentation depuis, grosso modo, qu'on a fait ce contrat. Donc là, on est en 1988. Pourquoi ça a augmenté ? On en a beaucoup parlé ce week-end sur TF1, mais également sur Europe 1. C'est le résultat, bien sûr, des attaques sur les installations pétrolières saoudiennes. Et donc, c'est très mathématique. Les prix de l'essence vont augmenter assez fortement. Une hausse, là, dès aujourd'hui, ça commence, et puis un peu plus demain, 4 à 5 centimes. Alors, vous me dites, c'est peut-être pas énorme, 4 à 5 centimes le litre. C'est 2 euros en moyenne, si on regarde un plein de 40 litres. Ça, c'est pour ceux qui vont faire le plein d'essence, mais pour ceux aussi où ça va coûter extrêmement cher, parce qu'on arrive dans la période, c'est pour les cuves de fioul. Là, ça concerne quand même énormément de gens, et pour certains, c'est des gens qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de moyens.
Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment ça peut être aussi direct, Emmanuel ? On a toujours l'impression que les hausses sont plus vite répercutées
députés que les baisses.
Effectivement. Alors c'est là aussi assez mathématique parce que les prix sont appliqués en fonction là aussi des prix qu'il peut y avoir sur les marchés. En l'occurrence, c'est le marché de Rotterdam qui est important pour l'Europe. C'est là où véritablement le pétrole que l'on utilise est coté. Et donc il est coté chaque jour. Quand vous allez faire votre plein tous ce que l'on peut en être, on se rend bien compte que ce n'est jamais le même prix d'une journée sur l'autre parce que les prix changent tous les jours. Donc c'est pour ça que là, directement, les prix vont augmenter. Alors comme vous le dites Mathieu, on a toujours l'impression que ça monte, mais que ça ne baisse pas. Ça commence à être relativement faux, puisque notamment grâce ou à cause de la crise des gilets jaunes, je peux vous dire que même des enseignes comme Total, maintenant, ils font gare à bien répercuter les baisses. Et puis surtout, ils sont obligés, parce que les grands distributeurs, les Leclerc, les Intermarché, les Super U, c'est un produit d'appel pour eux, l'essence. Et eux, je peux vous dire qu'ils répercutent tout les hausses et les baisses tout de suite, parce que tout simplement, ils ne font pas de marge sur l'essence. C'est grosso modo tout le temps à prix coûtant. Et ils représentent aujourd'hui, ces grands distributeurs, environ 60 à 70% de l'essence que l'on consomme en France. Donc, si vous êtes Total en face, si vous êtes Shell ou autre en face, bah, vous êtes bien obligé de répercuter la baisse parce que votre concurrent va, lui, le répercuter. Vous allez perdre des clients.
Mais Emmanuel, vous venez de le dire, les automobilistes sont très taxés en France. Pourquoi on ne peut pas tout simplement baisser un petit peu ces taxes?
Oui, les taxes, c'est 60% du prix de l'essence. Hein. Le vrai prix du pétrole en tant que tel quand on l'achète, c'est 30% du litre d'essence, puis 10% environ, c'est le raffinage. Alors, il suffit de voyager un petit peu. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se rendre compte qu'on paye beaucoup plus cher l'essence en France. Vous allez en Espagne, en Belgique, au Luxembourg. Tiens, justement, il y a un ancien ministre du budget qui m'avait confié il y a quelques années qu'il allait acheter ses cigarettes au Luxembourg et qu'il en profitait le week-end pour faire son plein d'essence parce qu'en France, c'était trop taxé. Il était ministre du budget, il pouvait donc agir. Et effectivement, les ministres peuvent agir et je peux vous dire qu'en ce moment même, au gouvernement, ils sont en train de regarder parce qu'ils vont regarder un petit peu la durée. Si ça continue d'augmenter sur une longue période, là, ça va véritablement poser problème. Et donc, oui, ils pourront à ce moment-là baisser les taxes. Il existe des mécanismes, ce serait temporaire, mais pour le moment, ils essayent un peu de se rassurer en se disant, et c'est vrai qu'il faut qu'on remette ça un peu dans le contexte, l'essence n'est jamais qu'au prix de cet été. On est très très loin des records que l'on a pu connaître ces dernières années. Ce qui est complètement historique et exceptionnel, c'est la rapidité de la hausse que l'on a pu connaître. Et ça aussi, c'est quand même inquiétant. Et ça pourrait expliquer que le pétrole va continuer à progresser dans les années à venir, parce que tout le monde maintenant se rend compte qu'il peut avoir un risque géopolitique gigantesque autour de l'Arabie Saoudite. Et c'est finalement ça le plus inquiétant pour nous, un consommateur, demain.
Emmanuel Dutheil, j'ai tout donné, regardez-moi Mathieu dans les yeux. J'ai envie de vous appeler Manu aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire...
Si tu veux.
C'est vrai que ça les gens n'ont pas encore voté, mais je ne sais pas pourquoi cette chronique, par sa qualité, par sa profondeur, par son côté concernant, me semble bien parti.
Alors, je peux dire un mot parce que vous m'avez séché, pas de prompteur, vous avez quasiment pas regardé vos feuilles, vous avez vécu votre chronique physiquement avec votre corps. Bravo.
C'était très bien, Emmanuel Dutheil. Votre papier aura-t-il séduit notre grand arbitre du jour ? C'est Anne-Claire Coudray, présentatrice du JT de week-end de TF1, qui nous accompagne cet après-midi.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue deux heures pour allier détente et savoir par l'entremise d'une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Et à ceux d'entre vous qui auraient des doutes sur le niveau des compétiteurs, je citerai Thierry Lhermitte dans le Dîner de cons.
Ce qu'on sélectionne sont des champions, c'est de la haute compétition.
Lequel de ces champions vous offrira l'info la plus étonnante, l'histoire la plus dingue, celle que vous aurez hâte de raconter ce soir au dîner ? Vous votez via Twitter. À suivre, avec l'affaire Hallyday, vous pensiez que les embrouilles familiales dans le domaine de la musique étaient une spécialité française ? On vous présentera les frères Gallagher, ex-Oasis. C'est Patrice non plus.
Oui. Oui. Calmez-vous.
Oui. Oui. Oui, William. Comme quoi la musique n'adoucit pas toujours les mœurs, mais parfois oui. Voici Mind If I Stay, Cadet Bostani sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous êtes au cœur d'un spectacle nouveau. Les Romains avaient les joutes de gladiateurs, Europe 1 a inventé les joutes de journalistes. Deux heures dédiées à votre bonne humeur et votre culture G, où les meilleurs chroniqueurs de la station s'affrontent, sous l'œil d'une journaliste de référence aujourd'hui. Elle fait partie de ces femmes qui ont su devenir grand reporter à la force du poignet, dans un milieu encore marqué par le paternalisme. Elle n'oubliera d'ailleurs jamais ce reportage dans les favelas de Rio à ses débuts avec Didier François, quand elle avait osé parler de dictature.
Une dictature, comme vous y allez. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature.
Anne-Claire Coudray, les téléspectateurs vous connaissent à la tête du JT Week-end de TF1, mais peu d'entre eux savent que vous avez plusieurs années de grands reportages derrière vous.
Mais oui, 15 ans.
Le terrain, c'est
la majorité de ma carrière. Ouais. Et j'ai adoré ça. Et ça m'a.
Et ça vous manque pas ?
Alors, ça me manque tous les jours, mais ça m'accompagne tous les jours. C'est-à-dire que je suis la présentatrice que je suis parce que j'ai eu 15 ans de terrain derrière moi et que je pense que je ne raconte pas les choses de la même façon, parce que j'en ai vécu certaines ou certaines approchantes de l'actualité d'aujourd'hui. Et donc, voilà, ça me. Je pense que ça me donne
une plus-value,
un sens un peu plus concret des choses.
Je disais tout à l'heure pour rigoler que c'était un milieu paternaliste, enfin machiste. Je sais pas,
ça
n'a pas toujours été le cas.
Moi, je pense que quand j'étais petite, je regardais le journal et il y avait plein de femmes grands reporters. Et je pense qu'inconsciemment, d'ailleurs, ça m'a.
Il y a eu une régression,
attiré.
Vous pensez, à un moment ?
Une régression. En tout cas, à ce moment-là, c'était une volonté très marquée.
Oui,
enfin, je pense que ces femmes étaient totalement compétentes pour le faire, mais qu'on leur a aussi laissé la place pour s'exprimer. Marine Jacquemin, Patricia Lémonière, qui est encore à TF1. Voilà, ça a été une grande, grande période où on a laissé les femmes sur un terrain qui était plutôt réservé aux hommes pendant des décennies. Les débuts des femmes en journalisme ont été compliqués. Et donc, voilà, sans doute que la télévision m'a attirée aussi pour ça.
Et en tant que présentatrice de JT, est-ce que vous estimez qu'on est scruté différemment quand on est une femme ? Quand on est un homme, ne serait-ce que sur le look, je ne sais pas.
Oui, alors ça, c'est vrai qu'en termes d'image, ce n'est pas du tout la même chose. Après, moi, j'ai appris à trouver que c'était un avantage de pouvoir changer de robe et de couleur et de chaussures. Parce que finalement, vous découvrez que, évidemment, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on fait, mais les téléspectateurs sont très sensibles à ça, déjà, parce que ça vous permet d'exprimer aussi une sorte de personnalité que les hommes ne peuvent pas exprimer. Et la tenue, elle est en phase avec l'actualité, elle est en phase avec le moment du week-end ou de la semaine et ça permet aussi d'avoir un petit rapport différent avec les téléspectateurs. Moi, il y a des téléspectateurs qui me disent avec ma femme on parie sur la couleur que vous allez porter pendant le générique. Et ben au début ça aurait pu me paraître totalement dérisoire et finalement je trouve que ça crée un lien personnel. Voilà.
Sur l'exercice de l'interview, vous avez dit en 2016 que la pugnacité chez une femme pouvait être perçue comme de l'agressivité, retenir les coups lorsque vous interviewez un homme politique.
Non,
par
mais
exemple.
C'est comme dans la vie. En fait, si vous êtes une femme, si vous êtes jeune, si vous avez moins d'expérience que quelqu'un d'autre, on ne va pas vous pardonner ou vous laisser la même marge de manœuvre. Et c'est vrai, mais dans tous les métiers. Et c'est vrai particulièrement au journalisme. Et je pense que quand vous êtes face à un ancien président de la République, que vous n'avez pas 40 ans et que vous êtes un petit peu pugnace, oui, on ne vous entend pas comme on entendrait un homme de 55 ans qui a 30 ans de carrière derrière lui. Oui. Et donc, au bout d'un moment, soit vous l'acceptez parce que vous travaillez pour un journal de grande écoute qui représente aussi ce que la société est, soit vous ne l'acceptez pas et vous changez de métier. Et donc, ça n'empêche pas de poser les questions. Sauf qu'il faut trouver le moyen de le faire autrement.
Vous la retrouvez chaque week-end aux commandes des JT de TF1. Anne-Claire Coudray passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Ah, quelle est loin l'époque bénie des éclats de rire dans l'open space, des plotis-plotas dans les sanitaires du 3e, entre Eva Roque et Emmanuel Duteil. Fini de rire, car désormais, chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 se retrouvent face à face pour en découdre. Un seul sera élu chroniqueur du jour, le plus méritant ou irritante. Peut-être la petite nouvelle Angèle Châtelier qui, soi-disant, s'y connaît mieux en musique qu'Eva Roque.
Salope !
Je vous en prie, Eva. Non, modérez vos propos. Non. Justement, dans un instant, Angèle nous fera découvrir une famille de stars de la musique encore plus déchirée que Léa Hallyday, les Gallagher.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures d'une compétition festive et rieuse entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se surpassent au service de votre culture G afin que se détendre ne signifie plus se vider le cerveau mais au contraire se le remplir. Et ben, c'est bon, j'en ai pas trop fait là sur l'autopromeuse, c'était pas too much ?
Non, c'était bien. C'était bien, c'était neutre.
Moi voilà, j'ai eu un doute l'espace d'un instant. Surtout que nous sommes en présence aujourd'hui d'une pointure du journalisme. Elle présente les JT du week-end de TF1. Anne-Claire Coudray est notre invitée cet après-midi. Anne-Claire, avant d'arriver au sommet de TF1, il y a eu les années d'apprentissage.
Ah oui.
Quand il y a les années d'apprentissage, on voit Amélie Poulain. Anne-Claire Coudray,
difficile,
vous avez débuté votre carrière de journaliste dans une radio associative, Radio Campus Rennes.
Ah bah oui.
Est-ce que vous vous souvenez encore du premier sujet que vous avez traité ?
Non, mais je me souviens du premier reportage que j'ai fait. C'était la technique du raku, qui est une technique de cuisson de poterie japonaise. Parce qu'il y avait un festival de musique japonaise à Rennes. Et donc, voilà, je m'étais lancée là-dessus. Et donc, à l'époque, on avait une bande. Il fallait couper la bande, la scotcher. Si on coupait mal, et ben voilà, c'était terminé. Donc, c'était une autre époque, oui.
Mais attends, mais vous êtes super jeune. Ça existait encore, les bandes
Oui.
Une petite quarantaine, on peut le dire.
Minuscule quarantaine. Mais j'étais au moment charrière. Oui, mais vous n'avez jamais vécu ça
Non, parce que moi, je suis encore
en école de journalisme aussi.
Non,
mais c'était... C'était du bricolage.
C'est peut-être aussi que je n'ai pas fait d'école de journalisme. C'est peut-être la réponse logique à cette question. C'était quoi justement vos rêves de jeune fille? Est-ce que vous vous souvenez le jour où vous vous êtes dit je veux être journaliste, c'est ça ma passion?
Moi, je voulais faire du terrain, je voulais partir à l'étranger, je voulais être sur des terrains difficiles, je voulais raconter les choses aux gens, et puis je voulais voyager. Voilà, moi, mes parents m'ont toujours fait voyager.
Et en camping-car, paraît-il.
En camping-car, mais oui, mais on a fait l'Europe entière et c'était formidable. Alors bon, à l'adolescence, ça devient plus compliqué parce que c'est quand même la promiscuité, mais voilà, je voulais voyager, je voulais faire marcher ma tête et mes jambes, et je me suis dit, tiens, le journalisme, c'est le métier qui synthétisera le mieux ce que j'ai envie de faire. Et je suis devenue ce que je suis grâce à ce métier qui est un métier formidable, qui vous apprend plein de choses sur le monde, mais aussi sur vous-même. Moi, j'ai été confrontée à des situations de détresse, de bonheur. J'ai vu l'histoire s'écrire sous mes yeux. J'ai eu cette chance-là. Et puis l'humilité de se dire que voilà, il faut prendre le temps de comprendre les choses, que la situation d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et cette patience-là aussi, elle est très importante dans la vie. Et donc voilà, je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir permis de suivre ces études-là et de m'avoir encouragé, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un métier qui rend meilleur.
Vous avez aussi interviewé des grandes personnalités. Vous avez interviewé notamment le président de la République. On peut difficilement faire mieux en termes d'interview. Est-ce qu'il y a une personnalité que vous...
Non, mais c'est marrant. C'est un fantasme que tout le monde a. L'interview des puissants. Mais alors, autant vous dire que ce n'est pas forcément les interviews les plus agréables. Parce que ce sont des êtres qui maîtrisent absolument la communication. Et si vous voulez des interviews vraies, des interviews où les gens donnent, ce n'est pas forcément les présidents de la République qui sont le mieux placés.
Et alors, qui vous rêveriez d'interviewer?
Bah, écoutez-moi, mes interviews préférées, ça a été des anonymes et je raconte un petit peu toujours les mêmes histoires, mais sincèrement, vous faites une maraude sociale le soir avec Médecins du Monde dans les rues de Paris, vous interviewez les gens qui vivent dans la rue, je peux vous dire que vous ne revenez pas pareil chez vous. Et ils vous racontent une vie au coin de votre rue qui est tellement dingue par rapport à la vôtre. Donc voilà, c'est ce genre d'interview. Mais ma meilleure interview de personnalité, ça a été Sylvester Stallone. J'y pense parce qu'il fait la du supplément du Monde. Tout le monde le prend pour un petit pois chiche dans la tête. Et c'est tout le contraire. Lui est très généreux. Il raconte son histoire, sa vie qui est incroyable. Il a beaucoup de distance sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. Et voilà.
Justement, notre chroniqueur littéraire Nicolas Caro faisait une chronique là-dessus l'autre jour sur Sylvester Stallone, qui était un grand cinéphile et pas du tout l'image qu'on peut avoir de lui.
Un peintre aussi. Et il adore la littérature.
Alors Anne-Claire, je crois que vous faites une grande part à la culture dans vos JT. Hein.
Oui, c'était déjà l'héritage de l'édition que j'ai repris quand Claire Chazal est partie. Et donc effectivement, il y avait beaucoup de culture. La culture, ça fait aussi partie du rythme du week-end. Et puis moi, je suis très attachée à la culture, mais sous toutes ses formes. Ça veut dire qu'on peut faire de la culture très classique, aller à l'opéra, et puis voilà, montrer d'autres formes de culture plus populaires. Et c'est très 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 large.
Non, je suis à 100% d'accord avec vous. Moi-même, je suis assez féru de culture. Même si évidemment, c'est pas à moi de le dire. Du coup, je paye Eva pour le dire à ma place.
Ah, il est fan, Mathieu. Grande culture.
Voilà. Et justement, nous allons à présent parler musique avec notre nouvelle chroniqueuse, blogueuse musicale. Mais vous ne le disiez pas de moi, évidemment. Oui, bah. Angèle Châtelier. J'espère qu'en régie, ils vont réussir à suivre. Ils ne sont pas hyper pointus hein, musicalement, Angèle. Mais bon, là, quand même, ils devraient y arriver puisque vous nous parlez d'Oasis. Bon.
Oasis.
Oui. Bon, alors, Angèle, ne vous laissez pas déstabiliser. Ça s'appelle un bizutage. Travailler avec sa femme, son mari, son frère ou sa sœur peut être un véritable supplice. Mais alors, imaginez partir en tournée avec eux, aller en studio ou faire des concerts. Les maîtres des engueulades en famille et en musique, c'est bien sûr les frères Gallagher d'Oasis. Mais ce ne sont pas les seuls, Angèle Châtelier.
J'ai aimé ma mère jusqu'à ce qu'elle donne naissance à Liam. C'est quand même ce qu'a dit Noël Gallagher à propos de son frangin hein, dans les
tribunes. Ça démarrait bien.
Voilà. C'était pas terrible et c'était même assez acerbe. L'amour entre les deux frangins Gallagher, les leaders d'Oasis, a souvent fait les tabloïds et chacun a un peu sa version quant au début de l'affaire. Ce serait une sombre histoire de pipi sur une enceinte stéréo, selon Liam, parce qu'ils étaient ados, ils étaient un peu ivres. En réalité, c'est aussi une question d'atomes crochus et de rivalité. Mais bon, les deux musiciens sont pourtant signés pour le même groupe sur le même label au début des années 90. Mais en 2009, après s'être foutus dans les pattes, j'allais dire dans la gueule, pendant des années,
vous pouvez le dire aussi,
les deux frères ne se présentent jamais sur la scène du festival Rock en Seine. Ils ont fini par se séparer ensuite et depuis c'est l'amour vache entre médias interposés. Alors Liam Gallagher, lui, revient vendredi avec un nouvel album, bah, sans son frangin du coup.
Ah, il faut dire que bosser en famille dans la musique, surtout dans le rock, c'est pas une tâche facile. Oasis, c'est pas les premiers à s'écharper comme ça.
Non, avant eux, il y a eu les Everly Brothers.
Oh, tiens. Toute votre jeunesse, Eva.
Mais vous savez quoi, ce qui est marrant, c'est que c'est le groupe préférence de Dave qu'on a reçu hier. Voilà.
Ça va nous aider à reconnecter avec le jeune public en plus.
Voilà. C'était pour faire un petit lien entre les émissions.
C'est très intéressant. Et nos auditeurs vous disent merci. Beaucoup de messages d'ailleurs en réaction à votre intervention.
Les deux frangins donnent des fils des Everly Brothers ont quand même réussi à s'entendre à peu près pendant 20 ans. Chapeau. Mais en 1973, pendant un concert à Hollywood, c'était un peu la fois de trop. Don était tellement sous qu'il se plantait complètement dans ses paroles. Alors ça a tellement saoulé Phil que celui-ci a fracassé sa guitare sur la tête de son frère. Ce qui est moins drôle, hein, c'est que les deux se sont plus adressés la parole pendant 10 ans ensuite, bah, sauf aux obsèques de leur père.
Oui, effectivement, voilà. Ça calme. Les engueulades et autres joyeusetés ont été monnaie courante au sein du groupe The Kinks aussi.
Oui, parce que s'engueuler, c'est aussi une attitude. Hein, et ça a fait partie de l'image des Kinks, groupe majeur de rock des années 60. Oh yeah!
Avec Dave.
Vous êtes
sûr ? Merci, Eva.
Mais avec Pascal Obispo qui était notre invité l'autre jour, oui.
Peut-être. Les Kings Serré et Dave Davis, deux frères qui viennent de la banlieue nord de Londres, un groupe propulsé très rapidement grâce au succès de ce titre, You Really Got Me. Et parce que tourner, faire des concerts doit amener son lot de tensions et de colère, le groupe a carrément été interdit de se produire sur le sol américain en 65. La Fédération américaine des musiciens n'a jamais trop dit pourquoi, mais ce sera à cause de leur comportement tapageur et énervé. Voilà, comme dirait Proust, hein, nous tenons de notre famille aussi bien les idées que nous vivons que la maladie dont nous mourons.
Elle termine en citant Proust.
Voilà, oh, c'est
presque un coup bas. Je vois Emmanuel Dutheil qui n'est pas content de cette chute. Il se dit, mon Dieu, elle va me ravir, mais point. Merci Angèle Châtelier, votre chronique mérite-t-elle 3 points, 2 points, 1 point. Ha ! Eva, on encourage la petite nouvelle ?
C'était bien, c'était neutre.
Super, avec ça, elle est partie pour la gloire. Europe 1. Eva Rock, Angèle Châtelier, Emmanuel Dutheil sont à mes côtés. L'équipe est sauvage continue 2 heures pour se cultiver en s'amusant avec une autre fonction secrète pour le DRH d'Europe 1, je cite, trier le bon grain de livret. Depuis la rentrée, les journalistes d'Europe 1 sont désormais en compétition. Chaque après-midi, un seul sera élu chroniqueur du jour et en fin de saison, il y aura d'un côté les champions, de l'autre les relégables.
Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ? Là, j'ai fait le plus.
Ressaisissez-vous, Dutheil. Rien n'est perdu. À suivre, on relâchera un peu la pression avec ce moment toujours gratiné où Eva Rock, qui est un peu, si j'ose la comparaison, la boule anti-stress de l'invité, se trouve confrontée à lui lors d'un quiz thématique sur lequel l'invité est béton et Eva tout à fait incompétente. Exemple, un quiz sur la prononciation correcte des mots en anglais.
Unbelievable.
C'est QFD. À tout de suite.
16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures d'un tango fou entre l'humour et le savoir. Même si, comme dans tout tango, il arrive que l'humour marche sur les pieds du savoir. Vous informer sans vous barber, voilà la noble mission qui est la nôtre chaque après-midi. Et pour cela, je suis entouré des meilleurs. Eva Rock, Angèle Châtelier, Emmanuel Dutheil et notre invité arbitre qui, comme vous, vote pour son chroniqueur préféré. Anne-Claire Coudray nous accompagne jusqu'à 18h. Alors Anne-Claire, vous présentez le JT Week-end de TF1. Or, la grand-messe a pas mal évolué ces dernières années avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu. Vous avez été obligé d'adapter l'offre du JT, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui à 20h, les gens sont déjà relativement informés déjà.
Et tant mieux, j'allais dire. Finalement, au départ, on pensait que ça allait nous faire concurrence. Ça nous permet d'aller plus loin sur certains sujets et effectivement de rappeler les informations basiques de la journée, mais on n'est pas obligé de retourner à ce béaba. Et du coup, ça nous permet effectivement d'aller plus loin. Ça nous oblige à aller plus vite. Ça, c'est pas forcément très confort parce que quand on va vite, parfois on fait des bêtises, mais ça nous a aussi obligé à créer des rubriques qui redétricotent un petit peu comment on arrive, nous, à nos conclusions et à nos informations. On a créé une, comme pas mal de médias d'ailleurs, une rubrique qui s'appelle Infox qui revient sur les fake news et qui explique aux téléspectateurs comment on a remonté le fil de l'info qu'on a voulu vérifier et comment on fait notre travail basique, qui on appelle, quels documents on consulte, quelle légitimité tel ou tel interlocuteur a pour qu'on lui fasse confiance. Voilà, et ça, c'est intéressant pour le téléspectateur et puis pour nous.
Alors, vous parlez justement des fake news. On vous a concocté un quiz spécial fake news, vraiment tricoté sur mesure pour vous, qui vous oppose à Eva Rock. Le principe est simple, à tour de rôle, je vous donne des infos, vous me dites si c'est une vraie info ou si c'est totalement bidon. On commence avec vous, Anne-Claire Coudray. Dans la famille de Frankie Zapata, l'homme au flyboard du dernier 14 juillet, on compte 3 clowns. Vrai ou faux ?
Alors, faux.
Faux. Ah, oh, mais elle est trop forte. Moi, j'aurais répondu oui. J'aurais dit au moins deux. Bah, il s'appelle Zapata.
Mais Zapata,
bon.
Mais c'est nul cette question.
Près, à une lettre près, on aurait pu se tromper.
En période de Pâques, j'imagine que vous avez déjà participé à une chasse aux œufs. En début d'année, à Namur, en Belgique, s'est déroulée une chasse aux sextoys. Vrai ou faux?
Vous êtes bête.
Regardez-moi dans
je
les
vois,
yeux.
Je vois pourquoi vous me posez cette question à moi en plus.
Ah, je ne vois vraiment pas, c'est vrai.
Attention, faut se méfier. Hein. Ouais. C'est les Belges.
Ouais, ouais. Je vais dire vrai. Allez.
Vrai ?
Ouais, ça m'amuse assez.
C'était cette année la 9e édition, déjà que le temps passe. Hein. Il y avait 800 sextoys à trouver pour 5000 participants, donc un peu de frustration. Mais les bénéfices. Mais les bénéfices de l'événement ont été reversés à plusieurs associations caritatives. Heureusement. Attention, je vous donne trois infos, seule l'une est véridique, vous devez trouver laquelle. En juillet dernier, la police canadienne a donné une conférence de presse en Facebook Live concernant un double homicide. Pourquoi ça s'est mal passé ? 1. Parce que l'assassin présumé a liké la vidéo. 2. Parce que la conférence de presse a été diffusée avec un filtre oreille de chat, du coup tout le monde avait des petites oreilles et une queue. Ou 3. Parce qu'un policier au second plan s'est endormi.
Je crois que c'est la... aussi dingue que ça puisse paraître, c'est le filtre. Non.
Les filtres à chat ?
Ouais, non. Il n'y a pas une histoire.
Et Baroque ?
Alors moi, j'aurais dit plutôt la première. Là,
Parce que l'assassin a liké la vidéo.
Oui.
Mais
ouais.
Ça s'est mal passé. Là, ça se serait bien passé s'il avait liké.
C'est vrai, on aurait pu le retrouver facilement.
Vrai,
et donc, c'est Anne-Claire Coudray, la reine du détectage de la détection de fake news, qui l'emporte. La conférence de presse a été donnée avec un filtre petit chat. Le sergent est donc apparu avec des petites oreilles et une queue.
Alors,
la police a ensuite présenté ses excuses en plaidant une erreur technique. Ils ont republié la vidéo en mode normal. C'est mieux, effectivement, pour un homicide. Qui remporte ce quiz ?
Bah, comme d'habitude.
Anne-Claire Coudray, évidemment, j'ai envie de dire.
Oui,
vous la retrouvez tous les week-ends.
Tout le temps.
À la présentation du JT de TF1, Anne-Claire est notre invitée jusqu'à 18h sur Europe 1.
Europe 1.
Que vous aimiez vous détendre, vous fendre la poire, vous cultiver ou encore apprendre à mieux connaître un invité vedette, vous avez sonné à la bonne porte. L'équipe est sauvage vous accueille. Oui, avec des gros moyens, avec un gros budget. L'équipe est sauvage vous accueille tous les jours du lundi au vendredi et même du lundi au dimanche, puisqu'on est rediffusé. Ma complice Eva Rock veillera à vous mettre à l'aise, comme elle le fait si habilement avec nos invités, comme hier le chanteur Dave. Dave qui nous disait ne pas avoir trop aimé les arrangements d'une de ses anciennes chansons, On marchait sur des œufs. Et forcément, vu qu'Eva porte des talons aiguilles.
Le clip est génial. Je trouve ça pas assez différent. Moi.
Ah ouais, ouais. C'est vrai?
Ouais, je trouve.
Ah, t'aimes pas?
Ouais.
C'est peut-être votre voix.
Je vous remercie.
Vivement qu'elle nous donne son avis sur le JT d'Anne-Claire Coudray, ça va être sympathique. En attendant, on parle d'un sujet qu'Anne-Claire a complètement oublié de traiter, c'est une faute professionnelle, le vol de galets à être tard. On vous dit toute cette sordide histoire, juste après, allez leur dire, Sylvain Arec sur Europe 1. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, c'est ça ? Ah non, autant pour moi.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'enfant qu'aurait pu avoir 7 à 8, Vidéogag et Koh-Lanta. Si seulement les émissions pouvaient copuler et s'il était biologiquement possible de se reproduire à 3. Beaucoup de si, me direz-vous, je le concède. Bref, vous avez compris globalement l'idée, se détendre tout en se cultivant et en notant des journalistes pour la qualité de leur travail. Denis, je te laisse nous rappeler la règle cruelle de cette émission.
À la fin, il n'en restera qu'un.
Mais l'heure est venue de marquer une pause dans la compétition pour se pencher sur ce qui se passe près de chez vous en région. Voici Régional Géographique. Et sans plus attendre, nous filons du côté d'Étretat retrouver François Coulon, notre correspondant dans l'Ouest, pour une affaire de la plus haute importance. Quand je pense que le JT de TF1 n'a même pas envoyé une caméra, ça va plus du tout votre JT de Claire Coudray. Voici François Coulon.
Le week-end prochain.
Le week-end prochain. Bonjour François Coulon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tiens, un mouvement liquide qui ne ressemble pas vraiment à celui de Mont-Lac-Léman. C'est à vous que nous devons cette prise de son saisie sur le vif.
Effectivement, Mathieu, comme vous êtes doté d'oreilles assez phénoménales,
c'est vrai.
Il faut le dire, je suis sûr que vous avez remarqué la java des galets au milieu du flux et du reflux. On ne peut pas vous le cacher. Nous sommes bien à Étretat et c'est au pied de ces fameuses falaises qu'on assiste chaque été à des scènes, il faut le dire, terrifiantes.
Oui, des gens qui osent se baigner dans la Manche. Ou des suicides d'otaries. Il y a des choses terribles là-bas.
Non, restons raisonnables quand même, Mathieu. Mais quand même, tous les étés, des touristes font une razzia sur l'une des richesses locales, le galet. Et ça rend malade Paulette Hamel qui a créé l'association Touche pas à mes galets.
On estime que par jour en été, ça va vous paraître énorme, mais il y a 400 à 500 kilos de galets qui disparaissent. C'est effroyable, c'est un véritable pillage auquel on assiste. Ce sont souvent de grands sacs entiers pour faire des allées, des murs, c'est très organisé et tout. On essaie absolument d'endiguer le phénomène. C'est la protection du village. Quand on n'a plus de galets, eh ben on inonde. Sur l'ensemble de la plage, il manque une hauteur de 2 mètres de galets. C'est catastrophique.
400 à 500 kilos de galets qui disparaissent chaque jour. Mais que fait la police, François Coulon ?
Eh bien, la municipalité a pris un arrêté qui interdit le vol de galets et le punit d'une amende de 90 euros. Le problème, c'est qu'à ma connaissance, personne n'a jamais été verbalisé pour ce type de chapardage. Et donc, on peut mieux faire, on peut le dire en termes de dissuasion. Quand on sait qu'Étretat accueille plus d'un million de touristes par an, eh bien, il y a urgence à trouver le moyen de stopper le phénomène.
En donnant par exemple d'autres idées de souvenirs de vacances à rapporter d'Étretat, François.
Ben voilà, c'est ça la bonne combine. Un peu de cidre ou de bénédictine de Fécamp pour Eva, par exemple, ben ou bien de la confiture de lait ou une boule à neige pour Angèle. Bref, tout sauf des galets.
Bien joué François Coulon, notre correspondant dans l'Ouest. Merci pour cette enquête de terrain. Si jamais je retrouve cette histoire dans JT de TF1 ce week-end, attention Anne-Claire, je saurai que c'est du plagiat.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe sauvage, deux heures d'une féroce compétition mettant aux prises les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour, peut-être Jérôme Lacroix, notre spécialiste sport qui s'est introduit pour nous dans les coulisses de la Ligue des Champions, dont le premier tour démarre ce soir. Son sujet aurait pu s'appeler « En immersion dans le vestiaire des champions ».
Ah tiens, ça aurait fait un bon titre de film X.
Oui, non, Eva, non.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe sauvage.
Mathieu Noël.
C'est un bien facétieux organe que le cerveau. Tantôt, il nous réclame d'être rempli, tantôt d'être vidé. À l'instar d'ailleurs d'autres organes que nous n'évoquerons pas ici, caractère familial de l'horaire et de l'émission oblige.
Ah, le pénis.
Non, mais bref, le cerveau. Le cerveau est un organe complexe qui nécessite les deux choses que vous apporte l'équipe sauvage, information et récréation. Pour vous l'assurer, chaque jour, quatre journalistes d'Europe 1 se tirent la bourre afin de vous offrir l'info, l'histoire la plus passionnante, celle que vous aurez hâte de raconter au dîner en présence d'un invité de marque. Aujourd'hui, c'est Anne-Claire Coudray qui nous accompagne jusqu'à 18h. Anne-Claire, merci d'être là. Tout se passe bien pour l'instant ?
Alors, tout se passe bien. Je m'amuse beaucoup.
Et vous apprenez aussi.
Ouais, je trouve que Eva Rock parle beaucoup de sexe.
C'est vrai.
Ça vous travaille ou...
Ça la travaille énormément. C'est vrai.
C'est dingue.
Et je pensais avoir le soutien de l'invité aujourd'hui, mais même pas en fait. Je suis maudite.
On parlait tout à l'heure, Anne-Claire, de votre relative timidité à vos débuts. Comment vous négociez cette timidité sur la manière d'incarner le JT
J'ai beaucoup travaillé. Non, mais au début de ma carrière, je me souviens même, enfin au début de mes études de journalisme, on avait encore les téléphones qui se décrochaient et je faisais le numéro et je raccrochais. Et j'étais terrorisée par le fait d'appeler des gens importants, par exemple.
Et maintenant, vous interviewez Emmanuel Macron.
Et maintenant, voilà, je me suis débarrassée de tout ça. Et puis oui, je pense que c'est pas un hasard qu'on aille vers des métiers qui nous challengent sur nos points faibles. Et je pense que voilà, j'ai réglé la question de ma timidité parce que je pense que j'y prends du plaisir aujourd'hui et que la mission que ça représente pour moi d'informer les gens, c'est supérieur à toutes les petites gênes, les petites contraintes. Et donc du coup, voilà, je me suis bien soignée, on va dire.
Anne-Claire Coudray, un beau message pour la jeunesse qui nous écoute. On peut vaincre sa timidité. Regardez, prenez Eva Rock aussi, pareil.
Mais il faut l'affronter. Hein. Ah il faut l'affronter ses faiblesses.
C'est ça le problème. À suivre, deux nouveaux compétiteurs. On vous entraînera dans les coulisses de la Ligue des Champions. On vous fera un test pour savoir si vous ne souffrez pas du syndrome de l'imposteur. Moi, inutile que je fasse le test.
Bah parce que la réponse est oui. Donc,
faites attention, Eva. Je suis quand même votre N+1, comme ils disent dans les métiers normaux. Ah, tiens donc. Il est 17h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous, Marguerite Lefebvre.
Le gouvernement appelle les pétroliers à la modération. La France redoute dans les jours qui viennent une hausse des prix du carburant. 4 jours après les attaques qui ont visé des sites pétroliers dans le Golfe, l'arrêt de la production a provoqué l'explosion du cours du baril. Un cours qui toutefois a rebaissé aujourd'hui. Des rumeurs annoncent une reprise de la production dans les semaines qui viennent. Concernant l'attaque en tant que telle, l'attaque de samedi, les États-Unis affirment que ce sont des missiles de croisière qui ont été lancés contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite, des missiles lancés depuis le sol iranien, toujours selon ce responsable américain. Emmanuel Macron au chevet des entreprises de la tech, ces start-up ultra innovantes qui ont tendance à partir à l'étranger au bout de quelques années. Le président reçoit à l'Élysée le gratin de ce secteur ainsi que de nombreux investisseurs. Objectif, convaincre le monde de la finance d'investir sur ces jeunes entreprises françaises et les aider à rester sur le territoire. Quels que soient les efforts, le réchauffement climatique sera plus fort que prévu, avertit d'une centaine de chercheurs français qui ont basé leurs recherches sur de nouveaux modèles, de nouvelles simulations. Et résultat, selon ces scientifiques, dans le le pire des cas, la hausse des températures pourrait atteindre 6 à 7 degrés d'ici la fin du siècle. 6 mois après l'attaque de la prison de Condé-sur-Sarthe, 5 femmes ont été placées en garde à vue, âgées de 18 à 39 ans. Elles ont été interpellées ce matin. Il s'agit des compagnes de détenus de la prison. Elles vont être entendues par les enquêteurs. Le 5 mars dernier, un détenu radicalisé avait agressé et blessé 2 surveillants à l'arme blanche. Le gouvernement a lancé ce matin un vaste plan pour lutter contre le trafic de drogue en France. Un nouvel office va voir le jour, l'office anti-stupéfiant. Il aura la charge de coordonner la lutte dans le pays. La consommation et le trafic de drogue ont explosé en France ces dernières années. La France ne sera plus le terrain de jeu des trafiquants. Voilà ce qu'a déclaré Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a fait le membre du gouvernement. En France, 1 entreprise sur 5 ne respecte absolument pas les règles en matière d'égalité salariale. C'est ce que révèle la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Ces entreprises n'atteignent pas la note de 75 sur 100. Ce nouvel index, cette note sur 100, doit permettre de faire un état des lieux de la situation en France. Et 75, c'est déjà un seuil plus que limite. En dessous, les entreprises risquent tout simplement des sanctions financières si elles ne changent pas leurs pratiques. C'est le début de la Ligue des Champions ce soir avec 2 clubs français en lice. Lyon tout d'abord qui reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg à 18h55. Et puis Lille qui se déplace un peu plus tard sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam. Début de la rencontre à 21h. À suivre en fil rouge sur Europe 1. Elles jouent déjà depuis plusieurs semaines, mais seront enfin diffusées à la télévision. Les handballeuses françaises ont enfin trouvé un diffuseur. La chaîne gratuite Sport en France s'est engagée à diffuser les rencontres de la Ligue féminine de handball. Il est 17h03 sur Europe 1, l'heure de retrouver Mathieu Noël.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue 2 heures pour étancher votre insatiable soif de savoir tout en taquinant vos petits zygomatiques. 2 heures également pour apprendre à mieux connaître une personnalité du showbiz. Aujourd'hui, c'est Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT du week-end showbiz. Sur TF1 qui nous accompagne. Vous êtes très très showbiz, Anne-Claire. Très très showbiz. Hier, c'était Dave, peut-être encore plus showbiz que vous.
Sans doute.
Dave qui a appris à ses dépens que je faisais partie de ces journalistes qu'on ne muselle pas, voyez. De ces journalistes qui, à l'instar d'Albert Londres, mon mentor, qui me considérait d'ailleurs comme son fils, m'attounait, m'appelait. De ces journalistes qui n'ont pas peur de mettre la plume dans la plaie, quitte à bousculer l'invité. Aujourd'hui, c'est Dave qui nous accompagne.
Ouais.
Ce nouvel album, Souviens-toi d'aimer, il marque quand même un tournant, voire une renaissance.
Oui, oui.
Parce que les chansons sont très profondes.
Oui.
Elles abordent des thèmes de société.
Ouais.
Vous devenez presque un chanteur engagé.
Absolument.
Ah, je suis comme ça, moi. Je déteste les gens qui caressent dans le sens du poil, Anne-Claire. Avec moi, ça file droit. Alors, Anne-Claire Coudray, on continue de parler du succès du JT de TF1. Il se peut qu'une surprise débarque en studio à tout moment. Mais d'abord, je vous présente 2 nouveaux concurrents. D'authentiques champions, puisqu'à ma gauche, avec un total de 10,5 points, il est actuellement 5e aux avant-postes du championnat européen. Ce qui tombe bien pour quelqu'un qui va nous parler de la Ligue des Champions. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Claire.
Bonjour.
Eva, bonjour tout le monde. Oui, la Ligue des Champions. Quelle image vous avez du foot, vous, par exemple?
Je sais pas. J'aime bien le foot.
Je suis sûr, ce matin, je vous prends tous à contre-courant. Musique classique au menu du foot.
Ah, la musique. Vous allez nous révéler les secrets de l'hymne. Il est magnifique, cet hymne de la Ligue des Champions. Je le mets quand je fais du sport.
Justement, tout le monde la connaît. Vous allez en apprendre tous les petits secrets. La Ligue des Champions, ça démarre ce soir.
À ses côtés, Anne-Claire, vous voyez le degré de respect et de terreur qu'inspire Daenerys, la mère des dragons dans Game of Thrones. Vous n'aurez qu'une vague idée de ce qu'inspire à ses collègues la championne, la reine. Avec 14 points, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, la chef du service société, Ève Roger.
Bonjour, merci Mathieu.
Avec quel sujet allez-vous tenter de conserver votre couronne aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler d'un mystérieux syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Tenez-vous bien.
J'ai l'impression qu'on en est tous victimes.
Beaucoup de gens en sont victimes, ça concerne beaucoup de monde.
7 Français sur 10 en sont victimes à un moment de leur vie.
Mon Dieu, quelle chronique notre invitée Anne-Claire Coudray préférera-t-elle? Réponse juste avant 18h. Alors Anne-Claire, vous incarnez les JT du week-end de TF1. En moyenne, on l'a dit, 5,6 millions de Français vous regardent. Ce qui fait donc arithmétiquement 62,4 millions de Français qui ne savent pas qui vous êtes. Mon calcul est-il bon?
Mais c'est pas toujours les mêmes en fait.
C'est ça, nouvelle.
Non mais c'est vrai.
J'avais pas pensé.
Puis moi,
à
je fais 13h et 20h. Donc fait, je sais pas, mais
en fait, vous faites plus de 10 millions,
certainement.
Par acquis de conscience, j'ai envoyé un reporter enquêter dans la rue, non pas pour un vulgaire micro-trottoir, toujours monté pour mettre en valeur l'invité, mais un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, mais sans montage, on a tout laissé.
Anne-Claire Coudray.
Elle est grande, brune, avec les bleus yeux, là.
Ah oui, une fille avec des cheveux longs, là, oui.
Elle a des beaux yeux bleus.
Elle est magnifique. Elle est super, elle est très belle, et à tout.
Bah oui, j'ai confiance en ce qu'elle dit.
Souriante, hein. Assez juste, assez posée.
Anne-Claire Coudray, ça me dit vraiment quelque chose.
Ah, elle travaille sur la télé.
Claire Coudray ?
Je l'ai croisée dans le train par hasard, elle était en face de moi entre Paris et Rennes. Eh, je l'ai trouvée très belle, même en vrai.
Très belle, même en vrai.
On aurait dû discuter.
Bon, calmez-vous, il va avoir des regrets. Tout ça, c'est très flatteur, mais on vous ramène encore assez souvent quand on fait un micro-trottoir sur une femme qui est effectivement très belle, sur votre physique. Or, vous êtes juste journaliste, en fait, quand même.
Oui, mais il y a une dame qui a dit que j'étais assez juste et qu'elle avait confiance en ce que je disais.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la première réaction, c'est de dire...
Je suis d'accord avec vous. Encore une fois, quand j'ai commencé ce métier, j'étais dévastée quand on me limitait à ça. Et en fait, j'ai fini par apprendre que si vous voulez que les gens vous écoutent, il faut aussi leur être agréable. Alors, agréable, ça ne veut pas dire qu'on a envie de vous demander votre 06, mais on a envie de vous écouter. Et pour avoir envie de vous écouter, il faut que vous soyez agréable, souriante. Alors, malheureusement, on n'a pas que des bonnes nouvelles à donner, mais avenante et que vous exprimiez une sorte d'apaisement, de douceur, peut-être, parfois. Enfin, en tout cas, voilà, que les gens aient envie de se poser et d'avoir rendez-vous
et puis,
avec vous.
En réfléchissant, c'est vrai qu'on commente beaucoup aussi l'habillement de Laurent Delahousse, par exemple, qui est un homme. Lui aussi n'échappe pas.
Oui, non, franchement, heureusement qu'on ne nous résume pas à ça, mais j'ai décidé de le prendre positivement.
Et non, mais c'est vrai, c'était important ce que disait la dame, la confiance en ce que vous dites.
Ah bah ça, c'est le plus beau compliment.
Il y a quand même une vraie défiance de la population française à l'égard des journalistes. Mm-hmm. Ça a fortement augmenté d'ailleurs les derniers mois.
Mathieu, il y a même un sondage en début d'année qui dit que la confiance accordée par les Français aux journalistes est au plus bas. C'est le 32e baromètre Kantar pour la Croix réalisé entre le 3 et le 7 janvier 2019. Comment vous vous adaptez à cette défiance ? Comment on peut regagner la confiance des téléspectateurs ?
Eh bien, toujours en leur proposant des reportages de qualité qui vont les convaincre qu'on leur apporte beaucoup de choses. C'est assez difficile, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On essaye de revenir aux bases de notre métier, de leur expliquer comment on en est arrivé là, d'incarner aussi le reportage, c'est-à-dire de montrer qu'on est allé sur le terrain, qu'on a poussé la porte, qu'on a posé les questions, etc.
J'ai l'impression que dans les JT, on est de plus en plus exactement obligé de montrer les coulisses du reportage pour montrer comment on arrive à une conclusion.
Mais pourquoi pas ? Et effectivement, ça donne de la solidité à nos conclusions.
Et une transparence. Vous la retrouvez aux commandes chaque week-end du JT de TF1. Anne-Claire Coudray est venue prendre le goûter sur Europe.
Europe 1.
Eva Roque, Ève Roger, Jérôme Lacroix sont à mes côtés. Dans la rédaction d'Europe 1, transformée en saloon depuis la rentrée, ils s'observent, se jaugent, se défient du regard, le doigt sur la gâchette, car ils sont désormais en compétition. Dans l'atmosphère électrique du studio Coluche, à la fin du jour, il n'en restera qu'un, celui qui vous aura proposé la meilleure chronique. Pour arriver à leur fin, ils sont capables de tout. C'est pourquoi, Ève Roger, je vous demanderai de respecter le choix de sujet de votre camarade Jérôme Lacroix, que nous allons écouter dans un instant. Il va nous parler de la Ligue des Champions.
Et je croyais qu'il allait faire la recette de la tarte à la tomate.
Non, arrêtons les mesquineries. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël. L'équipe est sauvage continue 2 heures pour vous détendre sans pour autant mettre vos cerveaux en veille. 2 heures surtout d'une impitoyable compétition, car vous le savez, depuis la rentrée, la rédaction d'Europe 1, c'est... Bon, Anne-Claire Coudray, notre invitée qui présente le JT de TF1 le week-end, doit connaître ça. Vous êtes à TF1 depuis 15 ans.
Effectivement,
Être facile quand même. On dit souvent qu'il y a beaucoup de pression à TF1.
Alors non, on dit souvent que c'est une rédaction assez à taille humaine et donc assez apaisée. Non, je pense que, voilà, moi de toute façon, je suis très claire sur ce point-là. Hein. Le jour où ça ne fera plus l'affaire, j'aurai une autre vie, j'ai eu une autre vie avant. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup plus apaisé aujourd'hui que peut-être qu'avant, parce que voilà, les carrières sont aussi beaucoup plus chahutées, riches.
Justement, une question qu'on se pose quand on occupe le fauteuil de présentateur du JT, est-ce que c'est un poste qu'on peut quitter ou on est forcément démissionné ? De mémoire, il n'y a que Christophe Ondelat qui a quitté un JT, non ?
C'est un poste très contraignant, donc on peut en être fatigué au bout d'un certain temps, mais c'est vrai que c'est un poste addictif aussi et qui se bonifie en plus avec l'âge, c'est-à-dire que vous progressez sans cesse. Ça met énormément de temps, il faut en faire et en faire et en faire avant de redevenir ce que vous êtes, redevenir naturel, et donc moi je n'en suis pas encore là, et donc j'espère que ça durera encore un peu, mais c'est aussi un poste qui est très lié à l'amour ou au désamour des téléspectateurs, et je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter aussi qu'ils aient envie d'autre chose. Donc voilà, là j'ai l'air philosophe, ce sera beaucoup plus difficile quand ça arrivera, mais je crois que voilà, il faut accepter ça. Et encore une fois, moi j'ai eu une vie professionnelle très heureuse avant, et je me dis que je serai capable d'en avoir une après.
Est-ce qu'ils sont bons, mes journalistes ?
Ils sont très bons, mais moi j'écoute Europe 1, alors
vous les connaissez déjà
apprécie,
un peu.
C'est pour ça que...
Attention, interdiction de me les piquer. Et justement, la compétition continue. Un championnat certes moins prestigieux que le nôtre démarre ce soir, il s'agit de la Ligue des Champions. Or, la Champions League, c'est d'abord un hymne fascinant dont Jérôme Lacroix va nous dévoiler les secrets. Jérôme, à qui j'avais demandé de muscler son jeu, d'avoir plus confiance en lui, message qu'il a reçu, mais à moitié, comme on a pu le constater dans sa manière de nous vendre son sujet tout à l'heure.
Ce sera soit du très lourd,
lourd, soit seulement du lourd.
Bah non, Jérôme, c'est, tu dis juste, ça va être du lourd, quoi. C'est ça qu'il faut dire.
Je clame une chose cet après-midi, je dis à bas les clichés, à bas foot égale chips plus bière, à bas les frasques de certains supporters, à bas les joueurs contre les arbitres amers. Non, pour vous parler football, Anne-Claire, je sors les violons.
Et quel violon ?
Alors, si vous êtes fan de foot, normalement, vous frissonnez. On entend l'hymne de la Ligue des Champions, très emblématique de la Grande Coupe d'Europe. On l'entendra, cette musique, ce soir à Londres, Amsterdam, Salzbourg, Lyon. C'est le début du premier tour. Elle résonne dans les stades juste avant le coup d'envoi, et ce, depuis 27 ans. Et aujourd'hui, à son écoute, eh ben, même les plus forts colosses s'érodent. Des joueurs parfois en larmes. Ils sont d'ailleurs un certain nombre à avoir cette musique en sonnerie de portable. On les voit de temps en temps après les matchs, ça sonne. Et puis hop, c'est la musique de la Ligue des Champions. Peu auraient parié un tel succès lors de la création de cet hymne en 1992. Alors justement, 1992, comment est né cet hymne et que nous dit-il du foot ? 1990, l'UEFA, donc l'instance de l'Europe du foot, hein, se cherche un hymne. Et la première source d'inspiration, ce sera ça.
Nessun Dorma.
Exactement, bravo Luciano Pavarotti qui chante donc.
Bah oui, excusez-moi d'avoir de la culture, voilà.
Alors, hein. Ah oui. Alors là, je suis bluffée.
Là, on est au concert Levé de Rideau.
Vous savez que j'ai déjà chanté ça face à Roberto Alagna à l'époque où je faisais des chroniques à la con. Oui, c'était, il faut quand même oser la connerie.
On est au concert Levé de Rideau du Mondial 90 en Italie et l'UEFA se dit alors le classique, c'est chic quand même. Et il missionne alors un compositeur, un Anglais, Tony Britton, qui déniche ça. Alors ce que vous entendez, ça, c'est pas l'hymne de la Ligue des Champions. Non, c'est pas l'hymne de la Ligue des Champions. Vous entendez Zadok the Priest, le prêtre Zadok. On est en 1727. George Friedrich Händel, allemand, fraîchement devenu sujet de sa majesté, s'inspire de l'Ancien Testament pour composer ce solennel et majestueux hymne de couronnement pour George II de Grande-Bretagne. Et depuis 300 ans, bah, il est joué à tous les couronnements royaux outre-Manche, jusqu'à celui d'Elisabeth II dans les années 50. Zadok the Priest, l'UEFA adore, un petit lifting, on modernise, on s'inspire fortement, et voilà né l'hymne de l'Europe du foot.
Ah bah oui, carrément, quoi.
Mais oui, c'est juste, c'est du Handel très subtilement réarrangé. Voilà. Une chose étonnante, c'est de la musique classique. Pourquoi ce choix ?
Oui, alors c'est vrai que jusqu'alors, les bandes son du sport, c'est plutôt.
Oui.
Non. L'UEFA veut du majestueux, du solennel.
Oui, mais surtout, elle donne des frissons, cette musique.
Voilà. Mais aussi du doux, du calme. Et pour cause, pourquoi a-t-on choisi quelque chose de calme plutôt que tambourinant ? Les années 90, il faut le rappeler, ce sont les années hooligan en Angleterre, oui, notamment. Alors on veut changer l'image du foot avec du cachet. Les chœurs sonnent plein, les cuivres, les cymbales ponctuent les phrases.
Du coup, la moitié des fans de Manchester sont allés prendre un abonnement à l'opéra. Tout de suite, immédiatement, il y a eu un lien de cause à effet direct.
Les choristes d'ailleurs, ceux de l'Academy of St. Martin's in the Fields, c'est l'élite britannique. L'orchestre, c'est le Royal Philharmonic sur l'enregistrement, rien que ça. Et puis on crée des paroles. Alors, en trois langues, allemand, français, anglais, les trois langues officielles de l'UEFA. Alors j'ai fait le tour dans la rédac. Pas un fan de foot ne peut me dire quelles sont les paroles.
Ah, moi, je pensais qu'ils faisaient du yaourt, toi, en
bah,
fait.
Justement, on fait tous un yaourt. Alors, allons-y sur la partie la plus connue. Die Meister, les maîtres en allemand. Die Besten, les meilleurs en allemand. Les grandes équipes. Les champions.
Ah oui,
en anglais.
Mais non, ah, parce qu'il y avait du français dedans, les grandes équipes en français. Incroyable.
Et il y a plein d'autres passages comme ça.
Mais
dans
c'est
le,
fou,
dans
j'ai toujours pensé qu'ils disent n'importe quoi.
Non, pas du tout.
Et pourtant, j'ai gagné 5 fois la Ligue des Champions, vous savez. Dans FIFA 2019, 5 fois avec l'Olympique de Marseille. C'est pas prêt d'arriver dans la réalité.
Le syndrome
ça.
De l'imposteur, vous dites. C'est ça.
Anne-Claire Coudray m'a démasqué. C'est violent. C'est très violent pour moi. Jérôme Lacroix, votre chronique sur les secrets de l'hymne de la Ligue des Champions a-t-elle plu à notre invitée Anne-Claire Coudray ?
J'en ai rien à foutre.
Non, elle veut dire que, non, elle veut dire que c'est bien. Elle veut dire
moi,
que
j'adore
c'est bien,
le foot. Je ne m'y connais pas plus que ça, mais j'adore le foot. Je vais soutenir la France dès que j'ai l'occasion. Et évidemment, la Ligue des Champions, je la suis très attentivement. Oui. On en parle d'ailleurs régulièrement dans le journal.
Nabila, je dois dire de nous avouer.
J'ai adoré votre chronique.
Et nous révéler
parce
les paroles.
Parce qu'on
de cette
adore
hymne.
Les petites histoires. Et,
c'était
et
délicieux.
Tout de suite, cette hymne prend une dimension qu'elle n'avait pas avant. Donc, qu'il n'avait
beaucoup
pas avant.
Beaucoup de bons sentiments aujourd'hui en studio. Que nous arrive-t-il ? Que nous arrive-t-il ?
Europe 1.
C'est une fois de plus sur les rotules que vous terminez la journée. Dans le même état qu'Eva après un semi-marathon.
Je sais plus quoi faire, moi. Je suis au bout du rouleau. Je suis en PLS.
Votre... Mais parce qu'elle est jeune, quand même. Votre solution clé en main s'appelle l'équipée sauvage. Deux heures d'allégresse informative pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire et arriver au dîner avec pléthore d'infos et d'anecdotes pour subjuguer vos proches. Car si nos journalistes sont rigoureux, ils sont aussi drôlissimes. Sur simple demande, Jérôme Lacroix peut par exemple vous imiter Gérard Depardieu.
Bon alors, on n'a plus le droit de ploter, bon alors.
Oui, Depardieu avant l'affaire Epstein, pardon. À suivre, vous souffrez peut-être sans le savoir du syndrome de l'imposteur. Je vous propose que nous fassions le test juste après Matcon. Don't worry sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez L'équipe est sauvage, deux heures badine mais informative pour pouvoir vous permettre de répondre à la fameuse question « Qu'est-ce que tu racontes ?» que ne manquera pas de vous poser votre femme tout à l'heure quand vous arriverez à la maison. Deux heures aussi d'une palpitante compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Ève Roger décrocha-t-elle une fois de plus la timbale au nez et à la barbe de Jérôme Lacroix qui, pour la déstabiliser, ose tout, même les insultes ?
Bouffonne.
Jérôme, je vous en prie, Jérôme. N'oubliez pas qu'elle est chef de service. Donnons à notre invité une bonne image de la rédaction d'Europe 1, s'il vous plaît. Anne-Claire Coudray, vous présentez les journaux du week-end sur TF1. Est-ce que de temps en temps, Claire Chazal vous passe un petit coup de fil pour vous débriefer votre prestation?
Oh non. Non, ça n'arrive pas, mais on a de très bons rapports. On n'est pas amis, mais on a de très bons rapports parce que mon rédacteur en chef a été le sien. C'est un de ses amis et donc j'ai des nouvelles régulièrement. Et c'est ça le secret de la transition entre elle et moi, c'est qu'elle l'a fait très bien et elle m'a rendu un grand service et je l'en remercie.
Il faut dire que Claire Chazal est une femme délicieuse, Eva.
Élégante et ouais. Délicieuse, exactement. Effectivement.
À force d'y être, vous avez encore le temps de regarder la télé, Anne-Claire Coudray?
Alors, c'est pas tellement d'y être qui m'empêche de la regarder, c'est ma vie familiale avec une petite fille de 4 ans et qui fait que voilà, je la regarde moins. Mais quand j'étais célibataire avec la télé au bout de mon lit, je peux vous dire que j'en ai regardé des heures de télévision.
Vous allez comprendre cette étude de l'Université d'Oxford qui dit que chaque soir, on perd désormais 17 minutes à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix. Ouais. Juste le temps de choisir cette foutue série qu'on a du mal à choisir dans l'océan des possibles. Heureusement, il y a désormais notre rubrique 17 minutes de gagner. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir?
Ne m'en voulez pas, Anne-Claire, mais je vous emmène sur France 5. C'est ce soir.
Oh bah non, avec plaisir.
C'est à 20h50, mais vous pouvez évidemment le regarder en replay. Ça s'appelle Police scientifique, le crime à la loupe. C'est un documentaire qui va peut-être vous rappeler un peu le bureau parce que ce sont des thématiques qu'on aborde quand on est journaliste. Comment est née la police scientifique? Alors, c'était à la fin du 19e siècle. Comment la recherche ADN a vraiment révolutionné les méthodes de travail et d'enquête? Quels sont les apports de la génétique, de l'informatique? Eh bien, ce documentaire répond à toutes ces questions avec des exemples concrets à l'appui et évoque surtout une nouvelle évolution, le portrait robot génétique.
Avec une quantité infime d'ADN, on est aujourd'hui capable de prédire dans les grandes lignes à quoi peut ressembler la personne à qui il appartient.
Lorsqu'on n'arrive pas à identifier l'individu, ce qui est le cas ici, on va pouvoir prédire à partir de l'ADN différentes caractéristiques telles que la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, et l'origine biogéographique de l'individu.
Et alors écoutez bien, parce que ce portrait robot génétique devrait devenir de plus en plus précis dans les prochaines années.
Aujourd'hui, d'autres critères sont à l'étude pour permettre de déterminer la tranche d'âge d'une personne ou la présence de calvitie ou de taches de rousseur. Et certains parient que dans 10 ans, on sera capable d'évaluer la taille d'une personne à partir de son ADN, la forme du nez, du menton, et pourquoi pas la forme du visage. Bref, une véritable photo en trois dimensions.
Alors c'est absolument fascinant de voir à quel point les avancées scientifiques et technologiques révolutionnent en fait les méthodes d'enquête et modifient évidemment le travail de la police et de la gendarmerie. Alors avec quand même une question en suspens qui est évoquée à la fin du documentaire, est-ce qu'on sera tous fichés demain? Et avec ces détails extrêmement précis, question qui sera abordée lors du débat qui suit la diffusion du film. Ça s'appelle Police scientifique, le crime à la loupe. C'est sur France 5 à 20h50 ou sur le site France.tv. C'est en replay, évidemment.
Vous en perdez votre latin, Eva.
J'en perds mon latin.
Bon conseil, en tout cas. Voici 17 minutes de gagner. Merci, Eva.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe est sauvage, souffrez-vous peut-être sans le savoir du syndrome de l'imposteur? Avez-vous du mal à vous attribuer les mérites de quelque chose que vous avez pourtant accompli? Attention, le syndrome de l'imposteur ne doit pas être confondu avec le syndrome du dictateur qui est l'exact inverse, pensez que tout vous est dû.
Ce serait beau, un petit café et un petit brownie.
Okay, où est le brownie?
C'est toi l'ordure qui a mangé mes brownies?
Seb, bordel de merde! Tu sais ce qu'il faudrait, Seb, pour réparer ton erreur? Il faudrait, pour réparer ton erreur, un petit déjeuner de qualité.
C'est trop chaud le café, il faut souffler dessus avant de me lever.
Faut me repenser ce petit déjeuner de A à Z.
Le syndrome du dictateur, aussi appelé syndrome du connard, tout simplement, hein, langage trivial. J'espère que vous n'avez pas de collègues qui me ressemblent. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue et Madeleine Ferron, écrivaine québécoise, disait « Ce n'est pas la victoire qui rend l'homme beau, c'est le combat ».
Oui, j'ai tenté une imitation de l'accent québécois complètement à froid. Complètement à froid, j'aurais dû me chauffer un petit peu.
Complètement raté,
oui. Oui, effectivement. Ils sont magnifiques, tout en sueur. Ève Roger et Jérôme Lacroix s'affrontent dans cette deuxième heure sous l'œil complice, mais exigeant, d'une confrère éminemment prestigieuse, puisque c'est Anne-Claire Coudray, présentatrice.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Oui, on fait
confrère. C'est vrai, d'une confrère, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais vous avez le droit de me reprendre, Eva. Par contre, vous payerez demain.
D'accord.
Sous l'œil complice, mais exigeant, d'une consoeur éminemment prestigieuse, puisque c'est Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT de TF1 le week-end, qui nous accompagne jusqu'à 18h. On a déjà entendu Jérôme Lacroix. Toujours confiant, Gégé?
Je suis sur mes bons appuis.
Tant mieux. Mais c'est maintenant que tout se joue. Puisque la tête de série numéro 1 s'avance vers le micro, Ève Roger, une championne hors norme, actuellement en tête du classement avec 14 points, mais une personnalité controversée. En effet, ses détracteurs lui reprochent de s'imposer avec des sujets un tantinet racoleurs et de jouer ouvertement la carte du sexy pour s'attirer des votes. C'est évidemment faux et elle va une fois de plus nous le démontrer. Vous êtes prête, Ève?
Vous voulez qu'on baisse la lumière?
Non, non. Pourquoi? Vous n'allez plus pouvoir correctement lire votre papier dans le noir en plus. Mais comment voulez-vous qu'on interagisse sans lumière?
Avec des caresses et des baisers.
Ah non, mais pas du tout. Mais ça ne vous intéresse pas, Ève. C'est très flatteur, mais c'est totalement déplacé. Et puis quoi encore?
Fellation, sodomie et j'en passe.
Oui, bon, alors passons plutôt rapidement à la chronique du jour. Ultra soft aujourd'hui, puisque oui. Vous nous parlez du syndrome de l'imposteur.
Vous croyez que je vais pas vous parler de sexe?
Vous allez quand même en parler?
Ah bah, j'ai réussi à le caser. Bon. Syndrome de l'imposteur. 7 Français sur 10, je vous l'ai dit tout à l'heure, en sont atteints à un moment de leur vie. Et c'est ce sentiment que nos succès, réussir un examen, décrocher un job, avoir un prix, recevoir un César, et ben, ce n'est pas dû à notre talent ou à nos compétences, mais simplement à un coup de chance.
Oh,
le
ça,
hasard.
C'est pas près de m'arriver, là.
Une erreur de casting. Le jury s'est trompé. Il n'a pas réalisé, il s'est trompé. C'est une façon de se déprécier. Et vous allez, pour bien comprendre, écouter Lisa, elle a 21 ans, dans son école. Elle a été sélectionnée pour écrire et réaliser un court-métrage.
Au sein de mon groupe, c'est mon scénario qui a été choisi. Mais j'étais persuadée que d'une façon ou d'une autre, j'avais réussi à flouer le jury, à leur faire croire que j'étais plus douée ou alors que j'avais une meilleure idée de ce que je faisais. Et j'osais à peine prendre la parole sur un projet qui était pourtant le mien.
Donc on est bien là dans le sentiment d'imposture.
Effectivement, c'est l'impression qu'en fait on ne fait que mentir autour de soi et qu'un jour ou l'autre les gens vont finir par le savoir et qu'à ce moment-là tout va tomber autour de nous.
Voilà, que tout va se casser la gueule, elle voulait dire. En fait, c'est l'impression d'être complètement démasqué.
Alors, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui est atteint du syndrome de l'imposteur?
Alors, il y a 3 piliers. D'abord, on l'a compris, le sentiment de tromper les autres. 2, avoir eu un coup de chance. Et 3, la peur d'être démasqué. Mais là où je vais vous parler de sexe, c'est que ça vaut dans la vie professionnelle.
S'il
on en
plaît.
A parlé beaucoup dans le syndrome de l'imposteur dans sa vie professionnelle, mais ça existe aussi dans la vie personnel. Mon amoureux ou mon amoureuse, en fait, il ne se rend pas compte de qui je suis.
Ah oui.
Et le jour où il va se rendre compte que finalement, je ne suis pas la personne si extraordinaire qu'il croit, et bien là aussi, il va me quitter. Ou même, quand on devient parent, ça arrive souvent, c'est une période charnière de la vie, c'est dire, j'ai un enfant, mais qui je suis pour avoir un enfant? Je suis incapable de l'éduquer.
Alors, comment on l'explique? Est-ce qu'il y a des gens plus à risque que d'autres?
Alors, on a cru longtemps que c'était quelque chose qui était réservé aux femmes. Et puis, en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est juste que les femmes en parlent plus et que les hommes, ils se taisent un peu parce qu'ils ont un peu honte. Mais donc, ça touche absolument tout le monde. Ça touche les enfants qui ont été très valorisés dans leur enfance, très, très surestimés, très idéalisés. Donc là, on a l'impression, quand on grandit, qu'en fait, les parents, ils ne savaient pas trop, c'est parce que c'était les parents. Donc, et à l'inverse, ça touche ceux qui étaient dans une fratrie où ce n'était pas eux qui étaient considérés comme les plus brillants. C'est-à-dire, c'était un frère ou une sœur. Et puis, quand on réussit soi-même, on se dit « Ah ben non, c'est pas moi, c'est lui. » Donc, ça touche ces enfants-là.
Et comment ça se soigne, si ça se soigne?
Alors, normalement, avec l'âge, alors peut-être que vous l'avez éprouvé, plus on grandit, j'allais dire, et bien plus on a le sentiment de sa valeur et de ses compétences, donc ça passe. Sinon, évidemment, il y a une thérapie.
Mais c'est surtout qu'on se rend compte que les autres sont incompétents aussi. C'est surtout que ça nivelle.
Oui,
c'est pas
ça.
Tellement qu'on se trouve bien, mais on se dit par rapport aux autres, finalement, ça va.
Et puis tout à l'heure, vous parliez du syndrome du dictateur, mais vous ne croyez pas si bien dire. Il y a bien le syndrome inverse qui s'appelle le syndrome d'Enim-Kruger. Alors ceux-là, ils sont impayables. C'est les gens incompétents qui croient qu'ils sont les meilleurs. Et ça, c'est extraordinaire. On en connaît certains ici.
Mais ne me regardez pas comme ça. Ève, cette chronique était parfaite jusque-là, jusqu'à ce regard perfide que vous m'avez lancé à la fin. Eva Rock.
Anne-Claire Coudray, est-ce que vous avez été victime du syndrome de l'imposteur?
Oui, mais j'ai aussi appris à connaître ma valeur, mais aussi à connaître mes limites. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, on devient heureux quand on sait ses limites et qu'on sait ce qu'on peut, en revanche, cultiver comme valeur ajoutée et suivre cette voie plutôt qu'une autre. Donc, il ne faut pas se mettre non plus dans des situations où on va être dans l'échec, je pense. Voilà. Alors, tout ça, c'est évidemment inconscient, mais voilà. Non, je me suis beaucoup apaisée avec l'âge. Effectivement, l'âge permet d'être sûr de ce qu'on vaut et surtout de savoir ce qu'on vaut et de savoir là où il faut aller.
Même Ève Roger y a droit. La question vache de l'autre chroniqueur, Jérôme Lacroix.
Pardon, par avance.
Ça va être vache, ça va être très très vache.
Pas d'obsession.
Pas d'attaque perso. Hein.
Ah non.
quand même. Est-ce que vous connaissez Eve Pauline Rose Clance et Suzanne Imes?
Eh ben, ce sont les deux chercheuses américaines qui ont découvert le syndrome de l'imposteur à la fin des années 70.
Déjà bien. Vous savez qu'elles regrettent elles-mêmes d'avoir utilisé le terme de syndrome. En fait, tout ce que vous venez de nous raconter, c'est pas du tout une
maladie.
C'est pas du tout une maladie, voilà. En fait, c'est juste une histoire de confiance en soi, quoi. Elles disent qu'elles préfèrent parler d'expérience, voilà.
De complexe, ou alors on peut dire le sentiment d'imposture. C'est pas le syndrome, ça veut dire que c'est pathologique.
Elle retombe bien sur ses pieds, hein, Eve Roger. Hein. On peut pas la déstabiliser facilement. Oui, parce que là, c'était même pas une question vache. Vous vous étiez lancé dans une interview vache, là. Vous commenciez à la. C'était parti, quoi. C'était
vraiment la contradiction.
Merci, Eve Roger. Alors, le syndrome de l'imposteur, l'hymne de la Ligue des Champions et ses secrets, le prix de l'essence ou encore les guerres de famille dans le milieu du rock. Vous votez via Facebook et même par SMS surtaxé si vous le désirez, mais ça serait dommage vu qu'on n'en a pas mis en place. Notre invité choisira dans quelques instants aussi l'élu de son cœur, son chouchou, le chroniqueur qui l'aura le plus chamboulé. Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT de TF1 le week-end, passe l'après-midi avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
Attention, ceci est un avertissement. Si vous avez été choqué par la violence de Kill Bill, vous risquez de ne pas supporter la dernière phase de l'équipée sauvage. La grande compétition mettant aux prises les meilleurs journalistes d'Europe 1 entre dans sa dernière ligne droite. Tous les coups sont permis. Jérôme Lacroix vient par exemple de renverser son café sur l'entrejambe d'Emmanuel Dutheil, ajoutant la parole au geste.
Ton paquet, il est trempé.
Un suspense haletant, de l'action, mais aussi délice in extremis, la recette de dernière minute qui vous sauve la mise pour le dîner. A tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue sans Marlon Brando, mais avec Eva Rock, Eve Roger et Jérôme Lacroix. Qui élirez-vous, chroniqueur du jour? Jérôme, un mot à vos fans pour faire pencher la balance en votre faveur?
Dabadabada, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Oui, mais n'en faites pas trop non plus. Inspirez-vous plutôt du journalisme sobre et efficace de notre invitée Anne-Claire Coudray. Ça va, Anne-Claire, pas trop choquée par l'ambiance délétère qui règne dans notre rédaction?
Mais au contraire,
rédaction.
J'adore. Non. Vous savez, j'ai fait 15 ans de terrain, donc...
C'est vrai, vous en avez vu d'autres. Chaque week-end, on vous retrouve donc aux commandes du JT de TF1, mais on lisait, vous venez du grand reportage, du terrain. Vous vous êtes déjà rendu, j'imagine, dans des zones à risque?
Oui. Je suis allée en Côte d'Ivoire, je suis allée en Irak, je suis allée sur des catastrophes naturelles. Enfin,
Haïti,
voilà,
j'étais au moment du tremblement de terre
d'Haïti. C'était d'ailleurs ma première expérience
traumatisante.
C'est là où vous apprenez que si vous restez un observateur, vous vous sauvez de pas mal de choses. Mais effectivement, beaucoup de journalistes avaient eu du mal à supporter. Voilà, ces 200 000 morts, cette détresse. Et c'est en ça que je dis que ce métier, il vous apprend beaucoup de choses sur vous-même. Parce que comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous savez rester dans votre rôle? Ou est-ce que vous laissez envahir par cette émotion? Enfin, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce genre de terrain difficile. Pour savoir ce que je valais, est-ce que j'avais du courage? Où étaient mes limites? Est-ce que j'étais une tête brûlée? Ou est-ce que j'arrivais à gérer ce risque? Ça, c'est aussi très important.
Et ça vous a aidé, j'imagine, à vaincre cette fameuse timidité qui est loin
Exactement.
Derrière vous aujourd'hui. Anne-Claire Coudray, femme de terrain, et nous sommes en mesure de le prouver avec un témoin surprise. Faites entrer un des grands reporters de l'Europe 1 qui nous rejoint, c'est Didier François.
Ah ben oui, on était au Mali
et voilà.
Ensemble, on a pris quelques
Bonjour
petits
Didier
déjeuners.
François.
Et alors, il connaissait par cœur les rations de l'armée et donc il nous indiquait quelles étaient les meilleures. Comment faire un bon porridge le matin dans un fond de bouteille, c'était voilà,
alors,
le grand
François,
porteur par excellence.
Anne-Claire Coudray sur le terrain.
Ben oui, c'est parti les nôtres, il n'y a vraiment aucun souci. Ben, tu viens de le raconter, mais notre dernier reportage en commun était au Mali, au moment de l'opération Serval. C'était la prise de la libération de la ville de Gao, où il y avait encore des cellules djihadistes. On a même eu droit à une contre-attaque assez violente sur le commissariat et dans
et
le centre-ville
mairie.
Et la mairie.
Mais expliquez-nous, parce que là, tous les journalistes sont en même temps, parce que vous n'étiez pas à Europe 1, vous étiez à TF1, Europe 1.
Alors, comme toujours sur les zones de guerre, il y a des moments et des lieux qui sont un petit peu dans l'actualité, parce que c'est là que se passent les batailles, c'est là que se passe la progression. Qui plus est, là, c'était quand même une progression lourde au sein du désert. On était parti aussi sur Tombouctou et puis après dans les Iforas. Donc on est sur des élongations très forte, en pleine zone de combat avec des djihadistes très présents qui cherchaient quand même un petit peu aussi à attraper du journaliste par-ci par-là. Et donc effectivement, on suivait les opérations de l'armée française. Il y avait une opération héliportée montée par les forces spéciales pour prendre le pont, pour rentrer dans la ville de Gao et libérer la ville de Gao. On est arrivé avec Anne-Claire et quelques autres camarades. On avait nos propres voitures. Alors, il faut voir comment c'était. Enfin, on louait des 4x4 à Bamako. On achetait des pneus parce que dès qu'on crevait, il fallait pouvoir changer les roues.
De l'essence, suffisamment d'essence. pour pouvoir tenir. Ouais.
Exactement, des litres d'essence, de l'eau en bouteille qu'on met, puis vaguement de quoi manger, parce qu'on y a toujours pareil, on prend vraiment ce qui est vraiment le plus utile
et on s'arrête pas sur la route.
Et on n'a pas de choix, donc il faut y aller.
Vous avez peur lors de ce reportage tous les deux ?
Ça arrive régulièrement d'avoir peur, oui. Après,
sinon,
il faut
limiter
la peur.
Oui, bien sûr. Sa peur. Et là, effectivement, donc à un moment, donc il y a une contre-attaque assez violente des djihadistes sur le centre-ville, ce qui a provoqué le déclenchement d'une réaction de la force de réaction rapide par le général qui commandait l'opération française et qui à un moment décidé que comme c'était vraiment risqué, alors qu'on était installé dans les petits campements, on avait loué des maisons, on avait
dans
pris
des
une petite cour dans un vieil hôtel abandonné.
Des bons souvenirs aussi, visiblement. Hein.
Ah oui, des bons souvenirs aussi.
On a l'impression que ça crée des souvenirs, mais dans
fait,
un contexte difficile.
Quand la journée est terrible et que vous avez vu des choses que vous ne vouliez pas voir et que vous avez eu peur, effectivement, le soir, quand vous vous retrouvez dans un endroit à peu près safe, vous décompressez. Ça, c'est normal.
Et donc, ils nous avaient regroupés dans un espèce d'immense hangar de l'aéroport où il y avait des avions cassés, des moteurs qui traînaient, des vieilles carcasses de voitures.
On avait dormi sur des palettes.
exactement.
Ensemble, scoop en
bas. On était tous ensemble, je te rassure.
Ouais.
Il y a vraiment strictement aucun souci.
Les amis, je vous laisse vous faire des bisous pour fêter ce beau souvenir. Et vous raconter peut-être entre vous les offs de cette opération, tout ce que vous ne pouvez pas dire, puisque je ne sais pas si vous étiez vraiment tous ensemble. Anne-Claire Coudray, vous restez avec nous, car je suis sûr que vous êtes aussi tête en l'air que nos auditeurs. Vous avez encore oublié de faire les courses pour le dîner ce soir, je parie. Évidemment. Heureusement, ici, on ne vous laisse pas sur le carreau. Delicie d'Extremis, votre recette de dernière minute arrive juste après Clara Luciani, nue sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec notre invitée d'honneur, Anne-Claire Coudray. Chaque week-end, elle présente les JT de TF1. Et Anne-Claire, écoutez. Oui, c'est le ventre des baroques qui gargouille. Il est temps de commencer à penser au dîner de ce soir. Concocter un bon repas avec trois fois rien. Évidemment, vous, Anne-Claire, vous avez appris à le faire avec Didier François dans la jungle.
Bon, écoutez, mon petit, là, je viens de tuer un croco. Alors, si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre. Vous pouvez au moins vous occuper du manger.
On embrasse Didier, on leur remercie de passer nous voir. Mais pour nos auditeurs qui n'ont pas votre expérience des situations d'urgence, il y a heureusement Délices in Extremis. Bonjour, Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Anne-Claire Coudray, bonjour Eva, bonjour toute l'équipe d'ailleurs.
Salut Olivier Pouls.
Alors qu'est-ce que vous nous concoctez aujourd'hui de simple, facile à réaliser et de pas cher ?
Ben, ma mamie, je vous emmène dans le sud de l'Italie avec une spécialité, alors j'adore ça, ce sont les pâtes aux sardines. Alors c'est pas cher, c'est facile et puis c'est d'une complexité de saveur absolument incroyable.
Alors comment on prépare ça ?
Je vous dresse d'abord la liste des courses. Donc,
ah oui.
Des pâtes longues type spaghetti. Des sardines fraîches de préférence. Alors là, je vous entends, mais est-ce qu'avec des sardines en boîte, ça peut marcher quand
même ? Je ne vais pas le dire.
Bon, bah, je vais faire celui qui n'a rien entendu. Je vais vous dire rapidement. Bon, à la limite, à la limite. Alors, il vous faut du fenouil, mais il ne vous faut pas le bulbe de fenouil. Il vous faut les feuilles, vous savez, c'est comme des petites bûches. Oui. Ça ressemble à de la nette. C'est un goût un peu anisé. C'est très, très bon. Donc ça se trouve assez facilement. Quelques pignons de pin, une poignée de raisins secs, un petit peu d'ail, un oignon et de la chapelure. On va attaquer la recette si vous me suivez toujours.
Oui, on vous suit.
On est tout ouïe. Moi, j'aurais rajouté un peu d'estragon.
On a déjà faim.
Non, non, pas d'estragon, malheureux. On est dans le sud de l'Italie.
Et ben voilà. Pour une fois que j'essaie de mettre une touche personnelle à cette chronique, voilà, je dis une connerie. Ça m'apprendra à me taire. Continuez, Olivier.
Bon, on va confier la cuisson des pâtes à Eva, puisqu'on en a parlé tout l'été dans le club. Donc ça, elle sait faire par cœur. Grand volume d'eau, d'eau salée, bien sûr. Oui. Et on les cuit en respectant al dente, en respectant le timing. On va garder d'ailleurs une petite louche d'eau de cuisson des pâtes parce que ça va nous servir pour la sauce. Alors pour la sauce, c'est très simple. On a émincé l'oignon, on le fait fondre dans un petit peu d'huile d'olive. On rajoute notre louche d'eau de cuisson des pâtes. On rajoute nos sardines découpées en petits morceaux, nos raisins secs, nos pignons de pin. Et on laisse mijoter tout ça pendant une petite dizaine de minutes. On termine en rajoutant une petite pointe d'ail, en rajoutant un petit peu de nos pluches de fenouil. On va lier tout ça avec les pâtes. On va dresser un joli plat. Et pour terminer, on va saupoudrer ça de chapelure de pin, ce qui va apporter un petit croquant.
Olivier Pouls, beaucoup de messages pour nous demander, on n'a pas très bien compris à quel moment on rajoute l'estragon.
Alors, l'estragon, donc celui-là, bah, vous le gardez pour demain et on fera une béarnaise avec.
Mais c'est aussi simple que ça, les pâtes aux sardines ?
Oui, c'est très très simple. Et puis vous allez voir la subtilité entre le raisin sec, le pignon de pin, la petite touche de fenouil et puis la sardine qui est quand même un poisson qui a du goût et qui est tout à fait abordable. Vous allez voir, c'est merveilleux.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Anne-Claire Coudray qui présente les JT Week-end de TF1 et notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Votre pouls est à présent aussi rapide que le tempo d'un titre de Gloria Estefan. Oh la vache. Dans le
Dans le studio Coluche, l'excitation n'a jamais été aussi grande, sauf peut-être lorsque Jérôme Lacroix y avait attiré Eva et Ève en marge du pot de rentrée, vendredi dernier, déclarant, toujours gentleman,
il y a des petits minous qui ont de la chance.
C'était une sacrée soirée, ce pot de rentrée. Qui serait élu chroniqueur du jour? Angèle Châtelier, Jérôme Lacroix, Ève Roger, Emmanuel Duteil. Réponse dans une poignée de secondes.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est toujours les mêmes gestes, les mêmes regards. D'abord la chaussure gauche, puis la droite, puis une gorgée de Jet 27, toujours. Il faut au moins ça pour encaisser la pression terrible qui pèse sur leurs épaules. Une fois de plus cet après-midi, les plus valeureux journalistes d'Europe 1 se sont affrontés au service de votre culture G. Pour être élus chroniqueurs du jour, ils n'ont reculé devant rien. Poil à gratter dans le slip, Imodium dans le café, voire même...
Chantage à la sextape.
Oui, il est temps, Eva Rock, de découvrir le vote du public.
Elle est à 39%, 2 points pour Ève Roger.
Ève Roger, mais c'est pas possible Ève Roger, mais vous payez les gens. Ève Roger, 2 points pour son sujet qui était passionnant. Il faut quand même
dire ce qui est
le syndrome de l'imposteur, c'était intéressant. Alors en ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Emmanuel Duteil.
Ah, bah oui.
Parce qu'Emmanuel a frappé fort, il a frappé fort d'entrée sur le prix de l'essence et Dieu sait, moi même si je n'ai pas de voiture, ça m'intéresse quand même comme sujet. Mais le moment est venu pour notre invité d'honneur Anne-Claire Coudray de voter. Attention, votre voix compte triple, réfléchissez bien. Et surtout, surtout, utilisez la petite plaquette devant vous où sont écrits les noms des compétiteurs. Ça évitera à Ève Roger un moment gênant parce que Ève Roger, l'autre jour, elle a gagné, mais Pascal Obispo, en revanche, n'a pas. Enfin bref.
Ah bon.
Donc je vote pour Eva Roger.
C'était Eva Roger qui a eu les points. Alors Anne-Claire, qui selon vous mérite d'être élue chroniqueur du jour?
Alors moi, j'aurais bien embauché Emmanuel Duteil pour venir faire son plateau sur mon.
Ça veut dire que je vais perdre.
Dans mon studio.
Ça veut dire qu'il va perdre.
Non mais franchement, bravo pour votre pédagogie. On a appris plein de choses, mais je crois que je vais donner mon point à Jérôme Lacroix, parce que cette petite histoire qui nous a ouvert les yeux sur un sujet absolument essentiel, c'est la gourmandise du journalisme.
Et Dieu sait que sur le papier, c'était pas gagné, mais on a appris beaucoup de choses sur l'hymne de la Ligue des Champions, des secrets inespérés.
Merci.
Venez, venez, je vais vous couronner en direct. Mesdames et messieurs, c'est donc Jérôme Lacroix qui l'emporte aujourd'hui. Jérôme Lacroix, un mot peut-être pour les perdants?
Bravo, avec 8 O.
Bon, en plus, il est sympa. C'était la 17e édition de l'équipée sauvage en présence de la parfaite Anne-Claire Coudray que vous retrouvez chaque week-end aux commandes du JT de TF1. Merci Anne-Claire pour votre bonne humeur tout au long de ces deux heures.
Merci de m'avoir invité.
Merci également à ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Rock, Ève Roger, Emmanuel Duteil, Angèle Châtelier, Jérôme Lacroix. L'équipée sauvage revient demain 16h.
L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.